Chapitre 4. Les jours suivants, Lorenzo fit encore quelques visites. Il alla chez ses cousins barbeliers où il ne fut pas reçu. Ces dames étaient sorties, monsieur également, bien qu'avant de sonner, le visiteur eût entendu la voix de ce dernier. Chez maître Loineau, où habitait le ménage Émile Monceau, la porte lui fut ouverte par la jeune femme, qu'il reçut aimablement, mais parut embarrassée quand il demanda s'il pouvait voir son mari. « Émile est très occupé avec un client. Il regrettera beaucoup. » Lorenzo pensa « Bon, ici également, il y a la consigne. On ne reçoit pas ce fâcheux de Domplaime. Eh eh, parents et amis, tout ce monde-là me gâte véritablement. » Il se rendit chez Madame Clémentier, la vieille dame au profil de chèvre qui avait été bonne pour lui autrefois. Là, il se vit accueilli avec sympathie, mais dut se défendre contre la curiosité de l'excellente personne qui souhaitait fort savoir ce qu'il avait fait pendant ces années passées à l'étranger. Les réponses évasives du jeune homme parurent l'intriguer, l'inquiéter même, car elle confia à Madame le Duc, qui vint la voir peu après, « Je crains qu'il n'ait à son actif quelque grosse sottise. Sous ce rapport-là, sa belle-mère n'a peut-être pas tort de le suspecter. Quel dommage si cela était! Un garçon qui a tout pour lui physiquement et qui paraît fort intelligent. Espérons tout au moins qu'il va se mettre sérieusement au travail et adopter une existence régulière. » Lorenzo s'en fut ensuite chez Mademoiselle Madeleine Ambert, qu'il savait rentrer depuis la veille d'Angoulême, où habitait son frère. Mademoiselle Ambert avait été l'amie d'enfance d'André Domplaime et plus tard pour Jessamine, un peu désorientée par sa transplantation, car elle n'avait jamais quitté Florence avant son mariage, elle s'était montrée une véritable sœur aînée. Lorenzo se souvenait comme elle témoignait de bonté, d'affection vraiment maternelle, à l'orphelin qu'il était devenu si vite. Mais elle avait quitté Treillac alors qu'il atteignait ses 12 ans, pour suivre au Canada son frère qui s'expatriait. Pendant quelques années, il correspondait avec elle. Puis il quitta la France pour mener sa vie d'aventure et n'écrivit plus que quelques cartes. Mais il n'oubliait pas l'ami des jours pénibles et, dès le lendemain de son arrivée, il s'était enquis d'elle. Sa belle-mère lui apprit que Mademoiselle Ambert habitait maintenant à Treillac, sa maison de la rue Basse. Son frère ayant épousé la veuve d'un industriel d'Angoulême, la vieille demoiselle vivait seule avec une servante et s'occupait beaucoup de bonnes œuvres. À certaines réflexions aigres-douces de Madame Domplaime, Lorenzo comprit aussitôt qu'il n'y avait pas, aujourd'hui plus qu'autrefois, de sympathie entre ces deux femmes, si différentes par les goûts, par la nature. Quand Lorenzo se présenta chez Mademoiselle Madeleine, il la trouva faisant des comptes dans son vieux salon, ouvrant sur un jardin ombreux au bas duquel coulait la rivière. Elle était trésorière de l'œuvre du vestiaire des pauvres, mais tout au contraire de Madame Loriot, elle apportait, dans l'exercice de la charité, la plus complète modestie, en ne visant qu'à la gloire de Dieu et au bien du prochain. Elle raillait d'ailleurs volontiers, à sa manière fine et sans méchanceté, les prétentions de la présidente, comme de tous ceux qui se font de la charité un piédestal, et ne cachait pas à ses intimes la peine, le découragement parfois, que lui inspiraient les mesquines vanités, les susceptibilités sottes, les vues intéressées, dont elle se trouvait le témoin attristé. Petite, menue, d'allure vive comme autrefois, elle parut à Lorenzo très vieillie, avec ses cheveux blancs et son visage creusé de rides. Mais elle avait toujours le même regard si doux, si franc, aisément malicieux, qui s'émut jusqu'aux larmes à la vue de Lorenzo. « Mon cher enfant, je pensais à vous si souvent. Permettez à une vieille amie de vous embrasser. » D'un mouvement spontané, Lorenzo mit un genou en terre et offrit son front au baiser de Mademoiselle Ambert. Lui aussi était profondément ému. La vieille demoiselle prit entre ses mains la belle tête virile et la considéra longuement. « Vous ressemblez à votre mère. Vous avez ses yeux, ses beaux yeux. Pauvre chère Gelsomine !»« Vous me parlerez d'elle, mademoiselle ?»« Oui, mon enfant, tant que vous le voudrez. Asseyez-vous là et dites-moi d'abord ce que vous êtes devenu pendant tout ce temps. » Mais Lorenzo ne se montra pas plus expansif à son égard qu'il ne l'avait été pour Madame Clémentier. Très discrètement, Mademoiselle Madeleine n'insista pas. Elle évoqua le souvenir d'André Damplaine, de sa première femme, de l'enfance de Lorenzo. Puis, sur une question du jeune homme, elle parla de Madame Damplaine, de Jeannine, de Félix, stupidement gâtée par leur mère. « Je m'en suis aperçu, dit Lorenzo, et encore, devant moi, on se surveille. Jeannine est une minaudière, une égoïste vaniteuse, Félix un poseur ridicule, tous deux infatués de leur personne et, je le crains, dépourvus de cœur. Mais l'éducation donnée par Madame Damplaine ne pouvait produire d'autres fruits. C'est en effet une bien pauvre cervelle. Je ne sais quel sera l'avenir de ses enfants, car on l'a dit, endettés partout. Eh bien, ils travailleront, voilà tout. Au cours de ma dernière discussion avec mon pauvre père, elle me cria « Tu n'es qu'un bon à rien, mais nous ne nourrirons pas ta paresse, tu peux y compter. » Cette parole, peut-être quelqu'un la répétera-t-il un jour à ses enfants, et beaucoup plus justement. Elle connaîtra alors ce qu'il en coûte d'être sous la dépendance d'autrui, de supporter les humiliations qu'on se plaît à infliger aux autres, comme cette pauvre petite Hélène Surbert, coupable d'être sans fortune et, circonstance très aggravante, beaucoup trop jolie. Avec la plus complète absence de scrupules, elle la fait travailler comme une servante, tout en lui prenant presque toutes ses petites rentes et la remercie par des duretés. Je l'ai fait avouer hier à ma cousine, non sans peine, car elle est étonnamment discrète et charitable. » Mademoiselle Ambert mit sa main sur celle du jeune homme en considérant avec un doux regard de reproche la physionomie tout à coup durcie, les yeux devenus très sombres, presque mauvais. « Lorenzo, comme vous détestez cette femme !»« Oh, je ne le cache pas, et je trouverai délicieux de me venger !»« Vous venger ? Mon pauvre enfant, ce n'est pas chrétien, cela !» Il dit sourdement, « Si vous saviez ce que j'ai souffert par elle, si vous aviez entendu ces attaques sournoises contre ma pauvre chère maman, ces paroles blessantes pour elle et pour moi !» Peu à peu, je voyais mon père moins affectueux, interprétant en mal tous mes actes sous l'instigation de cette femme. Oui, elle a réellement empoisonné mon adolescence. À mon avis, cela ne s'oublie pas, ou du moins, il faudrait une vertu héroïque dont je suis fort dépourvu, je le reconnais sincèrement. Mais non, il suffit de n'être pas trop orgueilleux, mon cher ami. Allez, allez, je vous sermonnerai quand vous viendrez me voir. Puis, votre jeune cousine vous donnera l'exemple de la charité. Elle paraît charmante, cette enfant, et si pieuse. Je l'aperçois à l'église, mais je n'ai jamais eu l'occasion de lui parler. Car on ne la voit nulle part, à aucune réunion. Madame Damplaine fait d'elle une seconde servante. D'ailleurs, on craindrait trop qu'elle n'éclipsât complètement Jeannine. Ah, qu'il existe de vilains êtres sur la terre, mademoiselle! Mais quelles belles âmes aussi, mon ami! Vous souvenez-vous de Georges Herry? Je crois bien, un de mes condisciples, un excellent garçon. Nous avions beaucoup de sympathie l'un pour l'autre. Qu'est-il devenu ? Ingénieur sorti de centrale, il avait une assez jolie situation dans l'industrie quand, il y a 2 ans, au cours d'un voyage de vacances dans les Pyrénées, il fut victime d'un accident à la suite duquel il demeura infirme, presque réduit à l'immobilité. Désormais, il se trouvait incapable de gagner sa vie. Pas de fortune, 3 enfants tout jeunes, telle était la situation. Les pauvres gens vinrent s'installer près d'ici, dans une maisonnette qu'on leur loue pour peu de choses, tellement elle est délabrée. La jeune femme, très courageuse, fait toute la besogne, soigne son mari avec le plus parfait dévouement, cultive le petit jardin pour lui faire produire quelques légumes et, de plus, élève admirablement ses enfants. C'est la pauvreté complète là-dedans, mon ami. Toutes les privations, ils les connaissent, sans parler des blessures d'amour-propre. Cependant, Georges est admirablement résigné. J'ai la pleine confiance que Dieu nous enverra le secours dont nous avons besoin. Pauvre Herri, j'aimerais à le revoir. Croyez-vous qu'il me recevrait avec plaisir, mademoiselle ? Oh, bien certainement, il a gardé de vous le meilleur souvenir. Vous le défendiez courageusement, paraît-il, contre des camarades plus forts. Vous partagez avec lui vos oranges, votre chocolat. Lorenzo se mit à rire. Oui, j'avais à son égard des instincts de protection. Comme il était frêle et timide, les autres en abusaient. Je voudrais pouvoir lui venir aussi efficacement en aide maintenant. Un discret coup d'œil sur les vêtements râpés indiqua au jeune homme la pensée de mademoiselle Madeleine. Mon pauvre garçon, ce n'est pas vous qui le tirerez d'affaire. Il retint le sourire qui lui venait aux lèvres et s'informa. Où habite-t-il, mademoiselle ? Je tâcherai de l'aller voir demain. Mademoiselle Ambert lui donna les indications nécessaires. Après quoi, Lorenzo prit congé en promettant de revenir bientôt. Rentré chez lui, il demeura près d'une heure dans sa chambre, occupé à écrire une lettre, un journal plutôt, vu le nombre de feuillets qu'il y employa. Puis il enferma ceci dans un tiroir de son secrétaire et descendit au jardin. Sous les tilleuls formant un grand coin d'ombre, Hélène travaillait à des raccommodages. Lorenzo vint s'asseoir près d'elle en répondant par un sourire à son timide regard d'accueil. « Toujours au travail, ma pauvre Hélène, et quel travail pour de si jolis doigts. Il est pitoyable de les voir occupés à ravauder ces gros torchons. Oui, oui, rougissez, vous ne m'empêcherez pas de dire la vérité. » Il la considérait d'un air mi-ému, mi-railleur. Elle baissait un peu ses paupières aussi légères, confuse et cependant inconsciemment heureuse de se sentir admirée par ses yeux dont elle subissait déjà la séduction dominatrice et qui, pour elle, s'adoucissait étrangement. Lorenzo, se rapprochant, lui prit la main. « Parlez-moi encore de votre mère, de votre existence à Brevilly. Ici, vous n'en dites jamais un mot à personne, n'est-ce pas ?»« Oh, jamais !»« Mais, à moi, vous voudrez bien ?» Les yeux bleus, confiants et tout éclairés d'une pure lumière, répondirent en même temps que les lèvres d'Hélène. « Oui, à vous, je parlerai de mes chers souvenirs, parce que je sens votre sympathie qui m'est douce, croyez-le. J'étais si heureuse près de ma pauvre maman. D'autres, peut-être, auraient trouvé cette existence triste et monotone. Mais moi, pourvu qu'on m'aime un peu, je ne suis pas difficile en fait de distraction et je sais me priver de beaucoup de choses sans pour cela me croire malheureuse. Maman m'avait élevée ainsi. Elle me disait « Vois-tu, Lénique, c'est mon nom en breton et elle m'appelait souvent ainsi. Vois-tu, il n'y a qu'une chose nécessaire, c'est de toujours remplir ton devoir en quelque circonstance que Dieu te place. » Riche ou pauvre, tu ne seras heureuse qu'à ce prix. Je fais de mon mieux pour suivre ses conseils, mais vous voyez comme j'y arrive mal encore, puisque je suis trop souvent triste, si facilement froissée des procédés blessants. » Dans sa main nerveuse et fine, Lorenzo serra fortement les doigts délicats. « Vous êtes très courageuse, très patiente, Hélène, et je vous admire, moi qui ai dans l'âme tant de rancune, tant de haine. » Elle répéta avec une surprise douloureuse « De la rancune, de la haine, oh, que c'est mal !» Mademoiselle Ambert vient me le dire aussi, mais il est impossible que ce soit autrement. Madame Damplem a fait de moi un être secrètement aigri. Par sa faute, je suis partie d'ici brouillée avec mon père. Celui-ci est mort sans que j'aie reçu son pardon. J'ai compris seulement qu'il me l'avait donné en apprenant que la maison, de par sa volonté formelle, constituait ma part d'héritage. Au dernier moment, il avait échappé à l'influence néfaste. Mais je n'oublie pas, non, non, et je l'aurai, ma vengeance, je l'aurai. » Il parlait avec un calme apparent, mais dans ses yeux sombres passait une lueur ardente et les lèvres, s'entr'ouvrant, montraient les dents aiguës dont la blancheur s'avivait près de leur pourpre chaude. L'autre main d'Hélène se posa sur la sienne. La jeune fille dit, avec un accent suppliant, « Oh, ne pensez pas ainsi! Quel sentiment pénible, mauvais! Lorenzo, vous me faites presque peur !» Il sourit, et tout aussitôt sa physionomie s'adoucit, et ses yeux reprirent leur caresse. « Non, vous ne devez pas avoir peur de moi, Hélène. Je suis un ami pour vous, et je saurai vous le montrer. » Entre ses doigts, il réunissait les deux mains de la jeune fille, et, se penchant, il les baisa. « Il faudra me confier vos ennuis, Lénique. Vous voulez bien que je vous appelle ainsi ?» Très émue, Hélène répondit. « Oui, je le veux bien. Depuis que maman n'est plus là, personne ne me donne ce nom qu'elle aimait tant. » « Je vous le donnerai, moi, quand nous serons seuls. Il me plaît beaucoup aussi. Puis nous parlerons souvent de votre bonne mère, de votre vieux manoir dont je me souviens très bien. » Ils causèrent un long moment encore, jusqu'à ce qu'un appel irrité vint les faire tressaillir. Madame d'Amplem apparaissait au bord de l'ombre que formait le feuillage des tilleuls. « Et les cerises pour la compote, Hélène ! Je les ai oubliées, ma cousine !» Vivement, la jeune fille se levait en répondant ainsi. Madame d'Amplem, coulant un mauvais regard vers son beau-fils, dit sèchement « Voyez ce que c'est de bavarder au lieu de travailler. Votre raccommodage doit être bien avancé, n'est-ce pas ?»« Mais oui, il est presque fini. Il devrait l'être complètement si vous n'aviez pas perdu votre temps. » Lorenzo, se levant, fit quelques pas vers sa belle-mère en disant avec une froide ironie « En vérité, madame, on croirait que le travail et les services d'Hélène vous sont choses dues. Elle paie cependant une pension suffisante pour avoir droit à sa liberté et ne pas remplir ici un rôle de domestique. » Madame d'Amplem, devant cette brusque intervention, demeura un instant interloquée. Toutefois, elle se reprit vite et riposta d'un ton acerbe « Il est assez juste qu'en retour de l'hospitalité que je lui donne, elle m'aide un peu dans ma tâche de maîtresse de maison. Pardon, je regrette de vous faire remarquer ceci d'abord. Cette maison m'appartenant, c'est moi qui donne l'hospitalité à Hélène. Ensuite, avant de demander son aide, vous pourriez avoir recours à celle de votre fille qui ne s'occupe que de babioles du matin au soir. » Le sang monta au visage de Madame d'Amplem. Elle s'écria avec arrogance « Je n'ai pas d'observation à recevoir de vous et j'agis comme bon me semble à l'égard de mes enfants et d'Hélène qui m'a été confiée par son tuteur. » « Très bien, mais ne souffrant pas de voir se perpétrer chez moi des injustices, je vous prierai, si vous tenez tant à vos droits, de les aller exercer ailleurs. » Lorenzo tourna les talons sur ces mots et s'en alla vers la maison. Madame d'Amplem laissa retomber ses bras le long de son corps. Cet ultimatum abattait net sa morgue. Hélène, les mains tremblantes, réunissait les pièces de lingerie qu'elle venait de réparer. Comme elle faisait un mouvement pour s'éloigner, Madame d'Amplem l'interpella d'un ton furieux. « Vous lui avez donc fait des confidences, petite hypocrite, et vous voilà déjà au mieux tous deux. Vous vous laissez prendre à ses belles paroles comme une petite sotte. » Lui s'amuse à vous faire la cour et se moquera ensuite de vous, ainsi qu'il a déjà dû le faire pour bien d'autres. Prenez garde, Hélène, je vous avertis. » Elle se rapprochait de la jeune fille interdite et posait la main sur son bras. « Que vous racontait-il, ainsi penché vers vous, en tenant votre main ?» D'un fier mouvement, Hélène se redressa. « Nous parlions de ma mère, de Brévilly. Vous pouvez être certaine que je ne permettrai pas... » Un rire moqueur l'interrompit. « Vous êtes d'une naïveté, ma pauvre Hélène. Votre cousin n'a pas dû tarder à s'en apercevoir et à jurer que cette petite fille sentimentale, inexpérimentée, serait d'une bien facile conquête. Attention, vous dis-je, Lorenzo est séduisant, adroit, certainement sans scrupule, après la vie d'aventure qu'il a menée. Défiez-vous de lui, n'acceptez pas la protection qu'il semble fort disposé à vous accorder. » C'est un conseil que vous donne mon expérience. Et maintenant, allez cueillir les cerises. » Hélène prit une corbeille sur la petite table près d'elle et se dirigea vers le fond du jardin. Elle allait machinalement, les yeux fixés devant elle, sans rien voir. Sa douce joie de tout à l'heure, quand elle était auprès de Lorenzo, venait de s'effondrer brusquement. Il ne lui restait que de l'angoisse, une tristesse profonde. Certes, elle avait peu de confiance en Madame d'Emplem et n'accordait qu'une demi-créance à ses dires. Mais enfin, ce cousin, dont la sympathie l'avait enveloppée dès le premier abord, elle ne le connaissait pas. Il se montrait bon pour elle, il paraissait loyal, sérieux, sincèrement intéressé par les malheurs de sa petite cousine bretonne. Celle-ci, depuis qu'il était là, avait l'impression d'être protégée, défendue, de ne plus se trouver seule dans la vie. Mais voici qu'avec un émoi anxieux, elle songeait que ses beaux yeux, caressants et volontaires à la fois, jetaient en elle un trouble jusqu'alors inconnu dont elle s'effrayait aujourd'hui. Elle frissonna. L'effroi saisissait son âme délicate qui s'écartait de l'apparence même du mal. Son cœur se mit à battre plus vite, le sang monta à son visage et elle pensa avec angoisse : « Ma cousine a peut-être raison. »